Vous êtes avec SBS French.
Les grands titres de ce 27 octobre, les Melbourniens sont autorisés une visite à domicile par jour avec l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus. La juge américaine Amy Coney Barrett, confirmée à la Cour suprême des États-Unis. Aux Seychelles, l'élection présidentielle de dimanche avec le candidat de l'opposition qui gagne, une première depuis 1977. Et à partir de minuit ce mardi soir, les visites à domicile à Melbourne seront limitées à une par jour alors que la ville sort de son verrouillage lié au Covid-19. Le chef du gouvernement, Daniel Andrews, affirme que des directives strictes doivent être en place en ce qui concerne les visites car c'est souvent à la maison que les gens baissent la garde.
Two adults will be able to visit another home accompanied by dependents that cannot be left unsupervised. Visits must occur, at least for the next couple of weeks, within the 25-kilometre limit, and only one private gathering, only one such visiting event, can occur per day. Meaning, if you have somebody over to your house at, say, lunchtime, you can't visit another house that night.
La règle des visites à domicile restera en vigueur au-delà du 8 novembre, date à laquelle le gouvernement de l'État devrait dévoiler des plans pour un Noël, un été et l'année 2021. Et bien pour suivre cette nouvelle, pour rappel, le chef du gouvernement, Daniel Andrews, a annoncé hier des assouplissements des restrictions liées au coronavirus. À partir de ce mardi 23h59, tous les commerces, pubs et restaurants seront autorisés à rouvrir avec des limites d'accueillir des clients, soit 50 personnes à l'extérieur et 20 personnes à l'intérieur. Les salons de beauté et les services de soins personnels rouvrent, mais il faudra continuer de porter le masque dans ces lieux. La limite de voyager dans un rayon de 25 km de votre maison reste en vigueur jusqu'au 8 novembre prochain. Et le port du masque, je rappelle, reste obligatoire dans les lieux publics. La chef du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré qu'elle n'était pas prête à ouvrir la frontière avec le Victoria. Malgré l'assouplissement des restrictions dans le Victoria, Madame Berejiklian déclare qu'elle hésite à agir à la hâte.
We want to open that border as soon as we can, but what is really important to us is to see what happens once the government eases restrictions down there. That's the real test. I knew the real test for New South Wales wasn't lockdown, because it's easy not to spread the virus when everyone's confined to their home or has limited mobility. But once you ease restrictions and people start moving around again and start working, that's the real test. And I think the residents of New South Wales would expect me and my government to be responsible in how we deal with that.
Environ 5000 Australiens devraient rentrer en Australie sur 8 vols subventionnés depuis l'Inde, l'Angleterre et l'Afrique du Sud au cours des prochaines semaines. Après avoir atterri à Darwin aujourd'hui mardi, les passagers du premier vol de rapatriement depuis l'Inde seront mis en quarantaine pendant 2 semaines à Howard Springs, dans le territoire du Nord. Il s'agit de l'un des 4 vols au départ de New Delhi qui fait partie d'un nouveau programme de rapatriement du gouvernement fédéral. Le Parti travailliste au niveau fédéral intensifie ses attaques contre le gouvernement Morrison concernant les retards dans la création d'une commission nationale d'intégrité. L'opposition multiplie les appels pour un chien de garde anti-corruption alors que le Parlement fédéral siège cette semaine. Le Parti travailliste a interrogé la coalition sur les liens entre le Parti libéral et les contrats financés par les contribuables, le scandale des montres de luxe à Australia Post et la accord d'acheter des terres dans l'ouest de Sydney à 10 fois le prix normal pour construire un aéroport. S'adressant sur l'ABC, Jim Chalmers, porte-parole des travaillistes, déclare que tout obstacle est inacceptable.
This government is a dumpster fire of ministerial scandal, and we're seeing it right across the board. That's why we need a national integrity commission, and it's probably why the government's dragging its feet on it.
Aux États-Unis, le Sénat confirme l'arrivée de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême du pays. Le vote 52 pour, 48 contre. Le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, Joe Biden, met en garde le président Donald Trump. L'ancien vice-président a déclaré que les mesures de santé devraient être respectées lors de toute célébration potentielle. Retour sur cette arrivée de Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis avec Eric de Salve pour Radio France Internationale.
Amy Coney Barrett va officiellement devenir la troisième juge nommée par Donald Trump à la Cour suprême. L'issue du vote au Sénat ne fait aucun doute. La majorité républicaine a unanimement promis de voter sa confirmation. Nommée à vie, Amy Coney Barrett, 48 ans, va faire pencher la plus haute juridiction des États-Unis, très à droite et pour longtemps. Cette catholique mère de 7 enfants est opposée au droit à l'avortement, opposée également à l'assurance santé Obamacare. Et ses auditions devant le Sénat ont montré son penchant climato-sceptique. En somme, la candidate idéale aux yeux de la base électorale de Donald Trump. La nomination de 3 magistrats durant le mandat du président porte à 6 le nombre de juges conservateurs contre seulement 3 progressistes et c'est l'un des arguments centraux de Donald Trump auprès de ses fidèles électeurs. Mais certains analystes se demandent si cette stratégie ne va pas finir par se retourner contre lui le jour du vote car Amy Coney Barrett est aussi adulée à droite qu'elle est détestée à gauche et sa nomination pourrait mobiliser l'électorat démocrate contre Donald Trump le 3 novembre prochain.
L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de violer le nouvel accord de cessez-le-feu. La trêve visait à arrêter les combats dans la région séparatiste du Haut-Karabakh qui a fait des centaines de morts. Dans un discours télévisé, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré que l'Azerbaïdjan n'était pas disposé à négocier.
I want everyone to understand clearly that Azerbaijan does not want to compromise to resolve this issue. It wants the capitulation of Karabakh. We are ready to make concessions, even concessions that are painful for us. But the Armenian people will never be ready to surrender.
Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré que l'Arménie était responsable de l'échec de l'accord de cessez-le-feu. Selon lui, l'Arménie a bombardé la région de Tartare en violation de la trêve et insiste pour qu'il y ait une solution pacifique, que l'Arménie doit établir un calendrier pour se retirer du Haut-Karabakh. En Grande-Bretagne, 3 millions d'enfants des familles les plus pauvres bénéficient de repas scolaires gratuits, mais le Parlement a décidé de s'opposer à la distribution de bons alimentaires pendant les vacances. Reportage de Béatrice Leveillé pour RFI.
Le débat qui a suivi ce vote controversé a mis en évidence la pauvreté qui sévit au Royaume-Uni en raison de la pandémie. Mais le Premier ministre Boris Johnson assume le vote des députés conservateurs. Il compte sur les initiatives locales pour subvenir aux besoins des enfants en difficulté.
We have to deal with it. The debate is how do you deal with it?
Nous avons le devoir de gérer ce problème, donc le débat porte sur la manière de le gérer. Et nous sommes très fiers du soutien que nous avons apporté aux familles et aux municipalités depuis le début de la crise. Et nous allons continuer à le faire.
Boris Johnson assure qu'aucun enfant n'aura faim cet hiver et que c'est une priorité pour son gouvernement. En attendant, pour le Parti travailliste, 1 400 000 enfants risquent de manquer de nourriture pendant les vacances, car le Premier ministre et le Parlement leur ont refusé leur aide la semaine dernière.
Aux Seychelles, l'élection dimanche de Wavell Ramkhalawan à la présidence avec 54,9% des voix. Le pasteur anglican du parti L'Union démocratique Seychellois a battu dès le premier tour le président sortant Danny Ford. Précision de Jeanne Richard pour RFI.
C'est au son des klaxons et des chants que ses partisans ont célébré la victoire sur l'artère principale de Victoria, la capitale. Wavell Ramkhalawan, 59 ans, devient le 5e président des Seychelles. C'était la 6e candidature du pasteur anglican à la présidence. Depuis 43 ans, au lendemain de l'indépendance, tous les dirigeants de l'archipel étaient issus de l'ex-parti unique, récemment renommé United Seychelles. Lors de ce scrutin, les électeurs se sont fortement mobilisés. La participation dépasse les 88%. Après l'annonce de sa victoire, Wavell Ramkhalawan a appelé à l'Union nationale.
Dans cette élection, il n'y a ni perdant ni gagnant. C'est notre pays qui apparaît comme le véritable gagnant. Monsieur le Président Ford, vous et moi, nous sommes de la même génération. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble pour notre beau pays.
Parmi les défis qui attendent le nouveau président, relever l'économie seychelloise, frappée par la pandémie de coronavirus, le tourisme, qui représente 30% du PIB, s'est effondré et la roupie seychelloise a perdu près de 50% de sa valeur face à l'euro depuis le mois de mars dernier. Le président sortant, Danny Ford, a lui rapidement reconnu sa défaite et souhaité bonne chance à son successeur. Wevel Ramkalawan doit prêter serment ce lundi à la présidence.
En Thaïlande, les grandes manifestations pour demander le départ du gouvernement et une réforme de la monarchie se poursuivent. Reportage Carole Izou pour RFI.
Ils se sont exprimés en thaï, en anglais et en allemand pour demander le départ du gouvernement, une nouvelle constitution et surtout une réforme de la monarchie. Des milliers de manifestants ont défilé dans le centre-ville de Bangkok jusqu'à l'une des artères principales de la ville où se situe l'ambassade allemande qui se trouvait sous haute surveillance policière. Pour ces manifestants, puisque le dialogue avec le Premier ministre a échoué, il faut s'adresser directement au roi, qu'ils accusent de contrôler l'armée et donc de diriger en secret le pays.
Le gouvernement ne répond à aucune de nos demandes. Ils évitent les questions, font des réponses vagues. Nous, on a besoin d'entendre parler de mesures concrètes, mais bien sûr, ils ne peuvent pas les donner, ces réponses. Ce ne sont pas eux les vrais patrons. Tout ce système, nous ne sommes pas d'accord. C'est pour le dire que nous sommes là aujourd'hui.
À l'ambassade, les manifestants ont délivré une lettre et des documents contenant selon eux des informations susceptibles de prouver que le souverain Ramadi serait les activités illégales en Allemagne. Le Premier ministre allemand a déjà prévenu que le souverain thaïlandais ne saurait mener des actions politiques depuis le territoire allemand.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 24 degrés, Adélaïde 20, Melbourne 17, Hobart 15, Canberra 16, Sydney 20, Brisbane 26, Cairns 33, Darwin 33 également et à Alice Springs maximal de 32 degrés. Un rappel des grands titres de ce 27 octobre, les Melbourniens sont autorisés une visite à domicile par jour avec l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus. La juge américaine Amy Coney Barrett, confirmée à la Cour suprême des États-Unis. Aux Seychelles, l'élection présidentielle de dimanche avec le candidat de l'opposition qui gagne, une première depuis 1977.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.